Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous réalisons que nous sommes dans la présence de Dieu? Est-ce que nous le réalisons vraiment? Dans la présence de Dieu, Dieu peut ou ne peut pas nous parler. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça sous-entend qu'on peut ne pas entendre. Alors j'aimerais lire avec vous un texte qu'on a lu ce matin dans l'Apocalypse, un texte qui en dit long sur la volonté de Dieu, même si c'est que des courtes phrases. Vous savez, pour que Dieu parle, pour qu'un homme politique puisse se faire comprendre, des fois il faut qu'il parle pendant 1h30 à peu près. Donc on commence à comprendre le sens de son discours. Mais Dieu, il peut dire un mot et ça suffit pour nous guérir, nous délivrer ou nous interpeller. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse, voilà ce qu'il dit. Je peux vous assurer que c'est un verset par lequel Dieu m'a profondément interpellé il y a quelques semaines de cela, alors que je rentrais dans mon bureau, et ce verset s'est détaché de la parole pour me sauter aux yeux, pour ainsi dire. Apocalypse 2, chapitre 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Si je résume la phrase en sautant les sept étoiles, ça veut dire voici ce que dit celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Voilà comment le Seigneur nous parle de la façon dont il peut marcher dans une église. Il marche dans une église parce que les chrétiens ressemble à des chandeliers en or. Et quand vous lisez dans le Lévitique la façon dont était construit, fabriqué un chandelier, je vous assure que ça vous exhorte à être un chandelier sans mélange, sans mondanité, sans chair. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors le chapitre qui nous intéresse, c'est dans Zacharie au chapitre 4, où nous voyons toute une progression dans l'œuvre de Dieu. Il y a une progression. Le Seigneur sait où vous en êtes. Le Seigneur connaît chaque église. Est-ce que vous savez que Dieu connaît chaque église? Il connaît chaque église, chaque foyer, chaque chrétien, et il a une parole. Une parole qu'on entend ou une parole qu'on n'entend pas. Si on ne l'entend pas, ce n'est pas bon signe. Donc dans Zacharie, les juifs ne sont pas conscients de l'œuvre de Dieu. Ils sont tous partis à Babylone, il en reste quelques-uns, et ces quelques-uns, ils n'ont pas lâché le morceau, comme on dit, ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu va s'adresser à Zacharie pour que justement montrer comment les choses doivent se passer. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre angulaire au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole, je lui dis, « Que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or, d'où s'écoule l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'il signifie ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Amen. Ah, vous pouvez dire amen. Bien sûr qu'il y a dans ce chapitre des symboles. Si vous ne les connaissez pas, vous avez peut-être du mal à faire le lien spirituel de cette affaire. Mais nous voyons quelque chose d'abord de très sérieux. Vous avez vu comment commence ce chapitre ? L'ange qui me parlait revint et me réveilla. L'ange qui me parlait. Vous avez vu les similitudes qu'il y avait le livre de l'Apocalypse. C'est très, très, très impressionnant, les similitudes qu'il y a entre chapitre et les lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse. L'ange qui me parlait. Voilà, je vais vous poser une question, peut-être embarrassante, mais certainement très utile. Est-ce que Dieu peut parler à votre cœur? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous exprimer de cette façon et dire, oui, en ce moment, le Seigneur est en train de me montrer ceci. En ce moment, le Seigneur est en train de s'occuper de ça. Le Seigneur m'a révélé certaines choses. Je dois m'occuper de ça. Ou est-ce que vous êtes dans l'embarras tel que vous pouvez dire, ben moi ça fait 6 mois, ça fait 1 an, c'est toujours pareil, j'écoute la prédication, bon je regarde si c'est biblique, je sais bien, je regarde dans l'église où je suis, je regarde si ce qu'on m'enseigne est biblique, je surveille le pasteur, c'est bien, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous entendez de la part du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu a à vous dire? Parce qu'on voit bien l'ange qui me parlait. Alors c'est vrai que vous avez lu la suite, il est dit, il me réveilla. Alors c'est peut-être là qu'est le vrai problème. La question c'est peut-être pas que Dieu me parle, mais la question c'est peut-être est-ce que je laisse Dieu me réveiller? Est-ce que parce que je lis ma Bible, est-ce que parce que je prie un peu, est-ce que parce que je vais à l'église, est-ce que parce que je sers le Seigneur, serait-ce même dans la prédication, est-ce que je suis réveillé pour autant? C'est quoi être réveillé quand on voit dans ce texte que Dieu a un dessein? Je ne parle pas de service. J'ai bien expliqué ça la semaine dernière, la différence entre un service que l'on peut avoir, parce que c'est utile que chacun serve le Seigneur, c'est indispensable, mais on peut tous servir le Seigneur et ne pas être dans le dessein de Dieu. Est-ce que vous me suivez? On peut tous faire quelque chose, tous. Dans une église de 30 membres, les 30 peuvent faire quelque chose, les 30 peuvent être engagés dans une activité, et on peut en même temps passer à côté de la volonté de Dieu. Ça vous choque peut-être, mais c'est pas compliqué, ça s'appelle la religion. Mais le Seigneur voit ce petit groupe qui est resté fidèle. Ils sont restés là, et ils ont compris quelque chose, que Dieu avait un dessein, et Dieu va les encourager, Dieu va poursuivre son œuvre. Monsieur Marquis tout à l'heure louait le Seigneur et parlait de cette affaire de que Dieu, quand Dieu a commencé quelque chose, il l'achève. C'était bien ça votre louange, Monsieur Marquis? Et c'est vrai. Et sa parole, ce genre de propos, de louange, doit réjouir le cœur du Seigneur quand quelqu'un est convaincu que lorsque Dieu commence quelque chose, il l'achèvera. Ça, c'est imparable. Mais le voilà. Le problème, c'est que Dieu, même s'il a décidé de terminer son œuvre, peut ne pas pouvoir la faire parce qu'il ne trouve pas ses chandeliers d'or. Est-ce que l'œuvre de Dieu peut être retardée? Répondez-moi, quand on n'est pas nombreux, comme ça on peut parler. Le dimanche matin, tout le monde, il y a tellement de monde. Mais dites-moi, est-ce que l'œuvre de Dieu peut être retardée par des chrétiens désobéissants?
Mais oui, je pourrais vous prendre des textes, veux-tu en voilà, qui nous montrent que pendant 20 ans, pendant 23 ans, pendant 40 ans, pendant 80 ans, l'œuvre de Dieu n'a pas pu se faire pour la simple unique raison que Dieu n'a pas trouvé des hommes qui voulaient être remplis du Saint-Esprit. Parce que vous savez, c'est une chose de chanter ces beaux cantiques, « Seigneur, déverse à moi ton huile sainte », etc., etc. Mais vous savez, on peut chanter ça en boucle pendant 2, 3 mois, 6 mois sans s'arrêter, jusqu'à épuisement, ça n'obligera pas Dieu à déverser son huile dans nos vases, si nos vases ne sont pas les vases que Dieu veut. Vous avez vu dans Timothée les sortes de vases que Dieu veut. Il commence en disant, mais Dieu dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et après, il parle de ces vases. Dans une maison, il y a plein de vases. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui sont inutiles. Les vases qui sont utiles sont des vases qui sont purs. Et Dieu voit le cœur de Zacharie. Dieu voit le cœur de Zorobabel. Ces hommes, ils ont à cœur l'œuvre de Dieu. Ils sont là, ils sont soucieux. Ils sont soucieux d'entendre une parole. Vous savez, il y a 15 jours, 3 semaines, vous vous rappelez que j'ai prêché sur Daniel, homme bien-aimé. Il y avait un couple de passage, un couple de serviteurs. Ils sont restés très discrets, personne n'a su que c'était un couple de serviteurs de Dieu. Et à la fin du culte, ils m'ont appelé. Vous savez que j'ai prêché pourquoi Dieu avait pu s'adresser à Daniel de cette manière, tu es un bien-aimé. C'était fait. Si vous vous rappelez, ça montrait la teneur spirituelle de ce garçon, de qui était Daniel. Ce frère qui cherche Dieu, qui veut servir Dieu de tout son cœur, dans la nuit s'est réveillé. Il s'est réveillé dans la nuit. Et il était accaparé par ce texte, homme bien-aimé. Il a même réveillé sa femme. Il a dit, écoute chérie, il faut que je te dise quelque chose. J'arrive pas à dormir. Il y a un verset de la Bible qui me préoccupe. Pourquoi Dieu a appelé Daniel homme bien-aimé? Alors je ne vous dis pas le matin, quand il a entendu la prédication, combien Dieu lui avait parlé. Et je crois, si vous voulez des confirmations, je vous donnerai son adresse, j'ai son adresse. Tout ça pour vous dire que quand Dieu parle, c'est parce qu'il voit aussi la personne qui a soif. Quand, hier, je méditais beaucoup ce sujet, quand Jésus a dit, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est extraordinaire quand on voit la suite. Mais venir, vous rappelez ce que Jésus a dit? Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est une chose de venir à l'église, ça ne veut rien dire venir à l'église. Ça devrait tout dire, en vérité. En vérité, quand on vient à l'église, ça voudrait exprimer ce besoin que l'on a de se retrouver, prendre le pain et le vin, chanter des cantiques, glorifier Dieu, servir Dieu, entendre sa voix, une parole. Moi, je peux vous dire que ce frère, je vous le dis, si vous avez un doute, je dois avoir oui, je l'ai ici, hein, puisqu'on a l'annuaire des assemblées de Dieu. Laissez-moi vous dire que cet homme, il a été bouleversé parce qu'il voulait entendre la voix de Dieu, et que cette nuit-là, il disait, mais Seigneur, je t'en prie, parle-moi, parle-moi. Et je crois que Dieu lui a parlé. Mais pour cela, il faut être réveillé, il faut être sérieux avec Dieu, il faut accepter le fait de dire, mais je suis endormi, je viens à l'église, d'accord, ça me tranquillise, je veille sur ma conscience en allant à l'église. Mais mes frères et sœurs, aller à l'église, c'est plus qu'entretenir sa conscience. Aller à l'église, c'est entendre ce que Dieu a à me dire pour que je puisse comprendre comment je vais pouvoir entrer dans le dessein de Dieu. Zorobabel, Zacharie avaient besoin d'une parole. Ils avaient besoin d'un encouragement. Ils avaient besoin de savoir comment ça allait se faire alors qu'ils étaient devant des montagnes de difficultés. Et Dieu va les rassurer en leur disant, mais parce que Dieu, il sait nous parler. Est-ce que vous savez que Dieu sait comment vous parler? Et Dieu dit, mais qui es-tu, grande montagne? Vous savez, ça fait du bien de savoir que Dieu s'occupe des problèmes. Ça ne vous fait pas du bien? Si ça ne vous fait pas du bien, c'est que vous n'en avez pas eu beaucoup. Mais c'est quand même rassurant que Dieu, lorsque quelqu'un se réveille, entende vraiment que Dieu va s'occuper de nos problèmes. Gloire à Dieu. C'est comme, en lisant ce texte, je pensais à Josué quand il était devant Jéricho et qu'il regardait cette grande forteresse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'affaire qu'il devait traiter et que tout d'un coup il voit un homme, l'épée nue à la main, et qui s'avance vers lui et dit, mais tu es de nos ennemis ou tu es des nôtres? Et qu'il va s'entendre dire, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et j'imagine Josué dire, bon, c'est bon. Ouf. Vous savez, quand vous savez que Dieu est avec vous, c'est quand même rassurant. Quand vous entendez le Seigneur vous dire, écoute les grandes montagnes, ne t'en occupe pas, j'en fais mon affaire. Que son nom soit béni. Parce que l'œuvre de Dieu a tout le temps été bordée de difficultés, de montagnes, d'agacements. Tout le temps. Toute l'œuvre de Dieu. Mais si nous commençons à dire, Seigneur, je veux que tu me parles. Vous avez vu dans l'Apocalypse, Dieu parle. L'Esprit dit une chose à l'Église. Vous connaissez l'Apocalypse, les lettres. Voilà, voici ce que l'Esprit dit aux Églises. Le Seigneur a une parole pour Sainte-Agne. Le Seigneur, il a une parole pour l'Assemblée. Le Seigneur, il a une parole pour l'Église de Vielmur. Il a une parole pour l'Église de je ne sais rien, de Calais, ou l'Église de Bordeaux. Le Seigneur, il a une parole pour chaque Église. Reste à savoir si nous voulons entendre sa voix. Ou est-ce que nous voulons entendre des paroles qui vont nous caresser, comme on dit, dans le sens du poil? Vous savez cette expression, que de prédications n'ont servi à rien parce qu'on n'osait pas dire aux gens qu'il fallait qu'ils se réveillent, qu'ils étaient endormis, que s'il fallait qu'ils choisissent entre la télévision et l'heure de prière, c'était vite choisi. Moi, je crois, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous réveiller. que l'œuvre de Dieu pourra s'achever, que les promesses de Dieu pourront être là dans notre cœur avec assurance, parce que c'est bien de chanter avec assurance, parce qu'on sait que c'est vrai. Donc, ça, au niveau intellectuel, c'est très facile de chanter quelque chose qui soit en conformité à la Bible, mais ce n'est pas ça l'assurance. Vous comprenez ce que je veux dire? L'assurance, c'est quelque chose de très fort. Rien ne peut vous ébranler quand vous avez de l'assurance. Après, on dit, oui, on peut chanter avec assurance. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé, tout ça. Bon, on peut chanter, c'est biblique. Mais je disais ce matin que cette semaine, j'ai lu un livre sur l'enlèvement de l'Église et qu'il y avait un vieux monsieur en 1952 qui avait reçu une vision, mais vraiment une vision de... C'était long. Et cet homme, de l'enlèvement de l'Église, ce qui allait se passer juste après l'enlèvement de l'Église. Et c'était vraiment fort et ça vous prend au trip cette affaire. Et il explique que le dimanche qui suit l'enlèvement de l'Église, les chrétiens qui n'ont pas été enlevés parce qu'ils n'ont pas veillé, parce qu'ils sont restés tièdes, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, parce que quand Dieu leur a parlé, mais ils s'en fichaient, ils pensaient que c'était pour les autres. Et il dit que les chrétiens se retrouvaient dans les temples, dans les églises, et que beaucoup de pasteurs étaient présents, parce que le pasteur, c'est pas parce qu'on prêche qu'on est obéissant. Et il y avait une terreur dans ces églises, parce que les chrétiens allumaient le pasteur et lui disaient « Mais pourquoi tu ne nous as pas dit que c'était, ça allait arriver ?» Parce que vous savez, on parle des fois de l'enlèvement de l'Église comme quelque chose, bien sûr, c'est la doctrine. 136 textes dans le Nouveau Testament parlent de l'enlèvement de l'Église. Alors il faut parler de l'enlèvement de l'Église. Il faut en parler, ça fait partie des vérités fondamentales, des assemblées de Dieu. Mais mes frères et sœurs, être prêt pour l'enlèvement de l'Église, c'est un petit peu plus sérieux que la doctrine sur l'enlèvement. Et moi, je ne voudrais pas que si le Seigneur Jésus revenait dans les mois qui viennent, vous soyez de ceux qui vont connaître les pleurs et les grincements dedans. Parce que quand l'ange de l'Éternel nous a parlé, l'ange, ça veut dire le messager, le serviteur, parce que c'est pas forcément un ange comme on le conçoit, un ange, les anges, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est le messager. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous accepteriez qu'on ne reparle plus de l'enlèvement de l'Église parce que c'est un sujet qui fait rire beaucoup de gens, parce que c'est un sujet qui fait rire beaucoup de moqueurs, par définition, des chrétiens moqueurs, qui ne veulent plus entendre parler de l'enlèvement de l'Église? Mais mes frères et sœurs, vous devez vous préparer à l'enlèvement de l'Église, parce que l'œuvre de Dieu, elle va se terminer. Le Seigneur a commencé une œuvre au calvaire, et je peux vous dire que quand le dernier sera rentré dans l'arche, laissez-moi vous dire que l'Église va être enlevée. Et moi, je sais, hélas, avec beaucoup de chagrin, que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. Ils sont là, bien sûr, qu'ils comprennent que l'œuvre de Dieu ne peut se faire que par le Saint-Esprit. C'est un des versets les plus connus de l'Ancien Testament, ça. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous le connaissez, ce verset? Qui ne le connaissait pas? À part que vous veniez pour la première fois, mais ce verset, tous les chrétiens le connaissent. C'est comme Dieu a tant aimé le monde, tout le monde le connaît. Si vous avez un mois de conversion, vous connaissez tout ce verset, parce que c'est un verset qui est régulièrement cité par les pasteurs, parce que, eh bien, il indique la bénédiction de l'œuvre de Dieu qui se fait par le Saint-Esprit. Mais moi, je peux vous dire, comme je l'ai dit ce matin, j'en ai eu honte, parce que je mets du temps. Moi aussi, je suis là dans la détente. J'ai été poussé pendant 6 mois à lire ce chapitre, tous les jours. 1, 2, 3 fois par jour. J'étais poussé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être poussé à lire un texte. Peut-être ça vous est arrivé. C'est bien. Et moi, j'étais là, bien sûr, avec mon verset 6. C'est pas par la force, c'est par la puissance. Alors, j'ai fait toute une liste. Je dois l'avoir à la maison. Peut-être que je l'ai là, dans mes notes. Toute une liste de ce que ça voulait dire. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. J'ai fait moi liste. Et je pense que c'est vraiment biblique. Vous voyez, ce n'est pas par l'argent. Est-ce que c'est avec l'argent que Dieu va faire son œuvre? Dieu peut utiliser l'argent dans la mesure où l'argent est à sa place et on le gère intelligemment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est avec l'argent qu'on va sauver des âmes? Est-ce que c'est avec l'organisation qu'on va sauver des âmes? Est-ce qu'une église doit s'organiser? Moi, je le pense, que l'organisation doit être quand même articulée. Mais ce n'est pas l'organisation qui va amener la bénédiction. Ce qui amènera la bénédiction, c'est que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont des chrétiens qui acceptent le début, c'est-à-dire une parole de Dieu. L'ange qui me parlait revint. Et hier, quand je méditais ce passage, je pensais à nous, bien sûr, à ce chrétien qui était là ce matin, à vous qui serez là cet après-midi. Je dis, mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Je reviens à ce que j'ai dit au début. Je le fais intentionnellement. Parce que vous devez pouvoir dire en ce moment, oui, le Seigneur est en train de s'occuper de, je sais pas, de mon orgueil. Est-ce que Dieu peut s'occuper de notre orgueil? Est-ce qu'il peut y avoir de l'orgueil dans notre cœur parfois? Bien sûr, Dieu résiste aux orgueilleux. Moi, je trouve que ça vaut la peine de s'occuper de l'orgueil s'il y en a. Si je suis avare, est-ce que ça vaut la peine que je m'occupe de cette affaire-là? Est-ce que Dieu peut s'en occuper? Bien sûr. Vous voyez, ainsi de suite. Alors, moi, je sais ce que le Seigneur est en train de me dire pour ma vie chrétienne, parce que avant d'être pasteur, je suis d'abord un chrétien. Mais mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, Dieu l'achèvera dans une église où ceux qui la composent, ceux qui ont pris le baptême par immersion, parce que je pense qu'il y a quand même, après la conversion, après la repentance, après la nouvelle naissance, le besoin de s'engager avec le Seigneur. Oui ou non? Il y a un besoin. Si vous n'avez pas pris le baptême et que vous avez justifié mille et une raisons, c'est que vous n'êtes pas passé par la conversion ou par la nouvelle naissance. Peut-être il y a eu un embryon de repentance, mais je peux vous dire que si vous êtes passé par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, vous avez eu besoin de vous faire baptiser. Vous n'avez pas eu besoin qu'un pasteur vous racole toutes les trois semaines en vous disant « C'est quand que tu te fais baptiser ? C'est quand que tu te fais baptiser ?» Il y a 6 mois qu'on n'a pas eu de baptême, alors c'est quand que tu te fais baptiser? Ça serait bien, comme on l'a dit, je ne sais pas si c'est pas toi qui me l'a dit, un pasteur qui disait, non mais c'est pathétique, c'est grave, un pasteur qui dit, ça serait bien que tu te fasses baptiser, ça encouragerait l'église. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. Ça serait bien que tu te fasses baptiser, ça encouragerait l'église, mes frères et sœurs. C'est grave, je ne sais pas si vous réalisez. Vous savez que c'est vrai, je ne vous mens pas. Franchement, quand on en arrive là, on se demande si le Saint-Esprit, il n'est pas à la porte, mais il est de l'autre côté de la planète. Et quand notre frère nous rappelait tout à l'heure que c'est vrai que Jésus est à la porte, c'est vrai. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, je crois, mardi. Le Seigneur est à la porte, mais quand même avant. C'est précédé de 5 conseils. Qui font que le Seigneur Jésus ne va pas rentrer comme ça parce qu'on va juste m'ouvrir la porte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Si vous me prouvez que le Seigneur rentre comme ça dans une église, ce n'est pas vrai. Il y a quand même un état de cœur. Un état de cœur. C'est comme la Sainte-Seine, on ne la prend pas n'importe comment. Parce que c'est vrai que ça nous parle du sang, le sang parle de séparation avec le péché, mais de notre séparation aussi. Avec le péché. Et je pense que beaucoup d'églises sont en déliquescence pour la simple unique raison qu'on n'a pas accepté que le Seigneur nous parle vraiment, ou alors les pasteurs, nous n'avons pas suffisamment cherché Dieu pour avoir sa pensée, pour que Dieu puisse parler à l'Église. Mais une chose est certaine, l'œuvre de Dieu se poursuivra, et c'est clair que Dieu trouvera quelqu'un, une Église où il pourra faire son œuvre. Mais une chose est sûre, ça commencera toujours par une parole de Dieu qui est précise, une parole de Dieu qui va nous réveiller, une parole de Dieu qui va nous dire, voilà où j'en suis, je sais ce que j'ai à faire, je dois abandonner ça, je dois pas justifier mon péché comme étant quelque chose de normal. Il y a des gens qui continuent à fumer, dire, oui, mais tu comprends, moi j'ai des problèmes. Écoutez, est-ce que Dieu est un Dieu de délivrance? Est-ce que quelqu'un croit que la puissance du calvaire peut nous délivrer de n'importe quel péché? Est-ce que vous croyez qu'au calvaire, le Seigneur, il a tout accompli pour nous délivrer de notre péché? Mais bien sûr que oui. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Mais soyez honnête. Dites, j'aime fumer, j'aime picoler, j'aime la télé, j'aime regarder des choses, des cochonneries sur Internet. Mais dites la vérité. Plutôt que de faire semblant et de faire croire que vous aimez Dieu, en vérité, vous aimez le monde. Celui qui se rend ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Jacques. Et il faut être honnête, parce que ça, c'est un problème grave qui touche beaucoup de chrétiens, ce manque d'honnêteté. L'ange qui me parlait me réveilla. Et là, on croit vraiment qu'une parole de Dieu peut nous être donnée. On croit véritablement que le Seigneur va nous fortifier. Vous savez, quand Dieu a dit à Zacharie, « Qui es-tu, grande montagne ?» Je pense que Zacharie était un homme de Dieu, était un homme inspiré par Dieu. Il a vite compris que Dieu allez s'occuper de tous ces problèmes. Et laissez-moi vous dire que si nous obéissons à Dieu, vous n'aurez pas besoin de beaucoup prier pour vos problèmes. Vous vous occuperez des problèmes des autres, mais je pense que vous n'aurez pas besoin de vous occuper des vôtres, parce que vous savez que Dieu a promis de s'occuper de nos problèmes si nous cherchions d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant, mais comme le temps passe, il faut que nous arrivions à l'essentiel. Vous avez remarqué le premier texte qu'on a pris, que Dieu marchait au milieu des chandeliers d'or. Ce matin, on a pris ce texte, on pourrait le prendre dans le livre du Lévitique. C'est très intéressant, Parce que qui ne veut pas que Jésus marche dans son église? Qui ne veut pas que Jésus marche dans la maison de prière? Vous n'avez pas envie que le Seigneur marche au milieu de nous? C'est pour ça que les chrétiens, on doit être sérieux. Avec le péché, il faut faire ça, il faut être sérieux. Moi, je vous assure, si j'apprends qu'un chrétien responsable vit dans le péché, il va falloir qu'on le lui dise que sérieusement, parce que c'est un obstacle à la prière. Il y a plein d'obstacles à la prière. Un mari qui n'aime pas sa femme. Est-ce qu'il y a un texte qui nous dit, Marie, comment c'est écrit? Marie, aimez vos femmes afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce que c'est écrit? Eh bien voilà, les maris qui sont ici, est-ce que vous aimez vos épouses? Monsieur Frölk, ouais. Non mais, les jeunes, est-ce que vous honorez vos parents? Ouais, mais mon père, tu le connais pas. Si tu le connaissais, tu verrais, c'est un pauvre type. Hein. Ma mère, la vieille, la radote. Seigneur, réveille ton église. Je pense qu'il va falloir commencer à ne plus dire réveille ton église, mais à être sérieux avec les commandements. Et regardez ce que le Seigneur dit, Lévitique chapitre 26, verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, verset 12, qu'est-ce que Dieu dit ou redit? Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Lorsque Dieu honore sa parole, ce n'est pas parce que je dis Seigneur, je t'honore qu'on l'honore. Quand on obéit Dieu, on honore. On honore sa parole. Et dimanche dernier, une fille qui me disait, Monsieur Go, pendant la prédication, j'ai été délivré de mes angoisses. Mais je crois que Dieu a honoré cette jeune fille. Parce que Dieu a vu son cœur. Et regardez, ce matin, on parlait de ce verset dans le psaume 81. Dans le psaume 81, moi, hier, je lisais ce psaume parce que je cherchais un texte justement par rapport au fait qu'on n'a pas obéi. Donc Dieu ne peut pas marcher au milieu de nous. Je vous le répète, si vous venez à l'église et qu'en même temps vous désobéissez à Dieu, vous ressemblez à ce que l'on va lire. Psaume 81, verset 12. « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. » Conséquence. Conséquence. « Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur. » Et ils ont suivi leur propre conseil. Regardez l'inverse. Oh, si mon peuple m'écoutait, donc m'obéissait. Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasirai du miel du rocher. Et hier, j'ai pris ma concordance et j'ai regardé tous les textes où Dieu nous rassasie, nous restaure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, tous ces textes où vous vérifiez que le Seigneur est capable de rassasier notre âme. Mais si on n'obéit pas, eh bien, Dieu nous livre au penchant de notre cœur. Regardez, ce matin, j'ai cité aussi ce texte dans le livre des Actes. Je l'ai lu des centaines de fois, le livre des Actes. Et hier, J'ai regardé ce qui était écrit dans le livre des Actes, parce qu'il y a une concordance dans le texte qu'on vient de lire qui nous amène à Actes 7 dans ma Bible. Actes 7, 42. Le livre des Actes, ce n'est pas un livre que je connais par cœur, mais enfin, je le connais bien. Et hier, je réalisais les dégâts de la désobéissance. Regardez Actes 7, 42. Alors Dieu, regardez, lisons-le, mais comment dirais-je, sérieusement. Alors Dieu, il parle de son peuple, bien sûr, se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon ce qu'il est écrit dans le livre des prophètes. Ça vous fait pas drôle? Vous l'aviez déjà lu, ça? Combien de fois? 100 fois, 200 fois, oui. Sérieusement, est-ce que vous aviez réalisé que Dieu avait livré son peuple au culte du zodiaque? C'est impressionnant. Quand on y réfléchit, c'est quand même impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que quand on n'obéit pas, Dieu nous laisse faire. Ne croyez pas qu'un ange va venir et vous empêcher de regarder la télévision. Comme un jour, quelqu'un le disait, si Dieu n'est pas d'accord, que la télé, elle explose. C'est ridicule. Parce que je peux vous dire que même si la télé avait explosé, il en aurait acheté une autre la semaine prochaine. Lorsqu'on n'obéit pas, on est livré au penchant de notre cœur, et on est malheureux.
Lorsqu'on n'obéit pas, on est triste. On croit que l'on va être heureux, ce n'est pas vrai. On est heureux que lorsque Christ demeure en nous, lorsque nous demeurons en Christ, c'est pour ça que dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit parfaite. Ma joie soit accomplie, dit notre version. Accomplie, ça veut dire, mais tu réponds à mes exigences, tu fais ce que je te demande, eh bien je te donne ma joie. Alléluia. Oui, Dieu veut faire son œuvre. Dieu veut terminer son œuvre. Dieu, il a une œuvre à faire. Il nous rappelle qu'il la fera par son esprit, pas par la puissance de l'homme, pas par l'art oratoire, pas avec des bons prédicateurs. Il ne fera pas son œuvre avec tout ce que vous voulez. C'est infini la liste de ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, dans nos conventions, il faut des comités à tour de bras, à toutes les conventions. Il faut un comité pour ceci, un comité pour la jeunesse, un comité pour les enfants. Mais je peux vous dire que ce n'est pas avec des comités que l'œuvre de Dieu va se faire. L'œuvre de Dieu, elle se fera avec des chandeliers d'or pur. La question que je vous adresse, que Dieu vous adresse, est celle-ci: quelle sorte de vase voulons-nous être? Quelle sorte de chandelier voulons-nous être? Parce que si le chandelier ou le vase, il est moitié d'or et moitié de foin ou de terre, Dieu ne l'utilisera pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec les exigences de Dieu? Ou est-ce que vous trouvez que Dieu est trop exigeant? Eh bien, vous le serez ce soir, vous le serez dans une heure, après que vous serez parti, en fonction de vos choix, vous le serez vite. Si vous êtes honnête, vous serez vite, très vite, la sorte de chandelier que vous êtes, que nous sommes, la sorte de vase que vous êtes. Si vous vous retrouvez devant, je ne sais pas moi, devant Internet en train de regarder des saletés, vous savez quelle sorte de vase vous êtes. Ne dites pas, oh Seigneur, tu le sais, Seigneur, tu le sais, Seigneur, oui, Dieu sait exactement ce que vous êtes. Voilà, vous savez que l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire et que nous devrions avoir cette honnêteté dans l'Église de dire « je suis un obstacle, il faut que je prenne une décision ». Oui ou non? Est-ce que ce n'est pas ça, aimer l'œuvre de Dieu? Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille encore. Alors vous allez me dire « c'est un peu expéditif », eh bien ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit, qu'il fallait que je fasse un choix, que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille encore. On le voit, tu es tiède, eh bien fais un choix. Il vaut mieux que tu sois ou bouillant ou froid. C'est écrit ou c'est pas écrit? Donc, c'est une question, voilà, si Dieu vous parle, vous prenez ces choses au sérieux. Vous ne dites pas, oui, d'accord, mais c'est peut-être M. Gault qui le dit. Non, c'est pas M. Gault, c'est la parole de Dieu. Si Dieu vous parle, vous devez dire non dans ma famille déjà. Dans mon église, parce qu'après tout, est-ce que c'est une grâce d'avoir une église? Si vous avez des doutes, vous allez à Alep, vous allez en Syrie, vous allez en Somalie, vous allez à Tombouctou, vous allez dans plusieurs pays endommagés par la persécution ou par la guerre, et vous verrez si ce n'est pas une grâce d'avoir un petit temple climatisé. Est-ce que ce n'est pas une grâce d'avoir une église? Mais c'est une bénédiction. Eh bien, on devrait pouvoir dire, voilà, Dieu m'a placé dans cette église, moi je ne veux pas être un frein, je ne veux pas être un interdit à l'église, ou j'avance et je me sanctifie, et je me purifie, et je deviens ce vase d'or pur. Il n'y aura aucun mélange avec le monde, avec la chair, avec les choses de la terre. Je vais me purifier, ou alors je me retire. À quoi ça sert de rester dans une église? Les vierges folles, en parlant de lampes, qu'est-ce qu'elles ont dit, les vierges folles? Elles ont dit, nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. C'était sincère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont restées dehors. Et elles ont connu ce que Jésus seul dit, les pleurs et les grincements de dents. Et si vous ne voulez pas vous convertir, vous connaîtrez les pleurs et les grincements de dents. Et si vous êtes chrétien de nom, vous connaîtrez les pleurs et les grincements de dents. Cette nuit, je priais, je pensais beaucoup à nos ados, à nos enfants. Eux aussi doivent se convertir, oui ou non? Est-ce que nos enfants doivent se convertir? Eh oui. Nos enfants, ils doivent prendre ces choses au sérieux. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne vont pas rigoler quand leurs parents vont partir. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le désarroi, à partir de quel âge on devient responsable? À partir de quel âge un enfant devient-il responsable? Vous allez me dire, bon, ça dépend de sa maturité. Mais à partir de quel âge un enfant est capable d'accepter vraiment Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Comment? Moi, je pense que 8, 9, 10 ans, je pense qu'un enfant 8, 9, 10 ans, il a cette maturité, croyez-moi, de comprendre. Non? Vous êtes d'accord?
Enfin, en tous les cas, Dieu sait à quel âge quelqu'un est mûr. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les ados, là, les enfants, est-ce que vous savez que vous devez absolument réfléchir à ces choses? Ce n'est pas les copains de l'école et vos professeurs qui vont vous l'enseigner, ça. Mais moi, je vous le dis, convertissez-vous. Convertissez-vous. L'œuvre de Dieu, c'est aussi nos enfants qui vont se convertir. L'œuvre de Dieu, ce sont nos adolescents qui vont se convertir. L'œuvre de Dieu, ce sont tous nos jeunes qui vont être remplis du Saint-Esprit. Vous le croyez, cela? Mais oui. Qui es-tu, grande montagne? Dieu n'est pas impressionné par les montagnes. Je peux vous assurer que le Seigneur n'a pas peur des grosses montagnes. Le Seigneur, il est attristé lorsque nous désobéissons. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Alors, on va prendre la Sainte-Seine. Vous savez, la Sainte-Seine parle de la mort de Jésus, mais je pense que le sang de Jésus, appliqué sur notre cœur, doit aussi parler de notre mort, de notre séparation. Je lisais un commentaire là dans une prédication que je vous ai donnée, à savoir que lorsqu'on dit « le sang de Jésus nous purifie de tout péché », quand on lave un vêtement, quand on lave un vêtement, on sépare la saleté du vêtement. C'est ça qu'on le purifie. Hein, on dit qu'on a purifié le linge, on a nettoyé le linge. Eh bien, on pourrait dire de la même manière, le sang de Jésus nous sépare de tout péché, puisque la purification, ça sépare. Vous comprenez? Et quand quelqu'un n'est pas séparé du péché, c'est la preuve qu'il n'est pas purifié par le sang. Parce que quand quelqu'un expérimente cette affaire, je ne dis pas croit, mais expérimente cette affaire, il est purifié, il est séparé du péché. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la Sainte-Seine après la prédication, parce que je crois qu'on a des victoires à prendre, et que lorsque l'on se rend conforme à la mort du Seigneur, par la grâce de Jésus-Christ, on prend des victoires. Alléluia. Et l'œuvre de Dieu peut un peu à nouveau se refaire. Fermons les yeux quelques instants. Je m'adresse à chacun de nous, nous allons prendre le pain et le vin. Je ne sais pas si vous êtes tous baptisés, je pense à nos enfants, je pense à nos ados, je pense aux personnes nouvelles. Mes frères et sœurs, Dieu savait que vous viendriez ici cet après-midi, Dieu savait. Je pense que Dieu devait savoir qui serait dans ce temple cet après-midi. Alors, qui cet après-midi veut dire « moi j'en ai assez d'être un chandelier mitigé, je veux être un chandelier d'or pur, je veux crucifier la chair ». Avec ses passions et ses désirs. L'apôtre Paul dit qu'il a crucifié le monde. Il n'a pas crucifié que le péché. Il a crucifié le monde, il a crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Et il est devenu, vous avez vu, l'homme qui a pu accomplir le dessein de Dieu. Zacharie avait besoin d'une parole. Nous avions besoin d'une parole. Cet après-midi, qui a entendu la voix de Dieu? Quelle parole a touché votre cœur? Il y a peut-être un mot qui vous a touché. Les jeunes qui n'étaient pas encore baptisés. Il y a peut-être une vérité qui vous a interpellé. À savoir que peut-être un jour, vous allez vous retrouver tout seul quand vos parents vont partir. C'est ça que vous voulez? Connaître cet enfer déjà sur terre? De la colère de l'agneau? Non, mais repentez-vous. Convertissez-vous. N'attendez pas que des choses changent. Les choses ne s'amélioreront pas. Les choses se feront en s'aggravant. C'est écrit. Alors on va prendre le pain et le vin, qui veut dire oui, ce sang, ce vin qui représente le sang précieux de Jésus, parle aussi de ma mort en Christ. L'apôtre Paul dit, nous sommes morts en Christ. Alors je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion de se lever s'il vous plaît, de le faire avec beaucoup de joie. On est devant Dieu. Oui, le sang de Jésus nous sépare de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie. Et si vous vivez dans le péché, de grâce, prenez la victoire cet après-midi. Considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu, que dans l'Église, il n'y ait pas des frères et des sœurs qui attristent le Saint-Esprit, font obstacle à la bénédiction de Jésus-Christ. Oui, Dieu a un projet, un dessein. Il terminera son œuvre. On a vu qu'il poserait la dernière pierre. Vous l'avez lu avec moi? Il posera la dernière pierre de son Église. Il terminera son œuvre. Il l'a dit, ne vous inquiétez pas, il le fera. Mais quelle sorte de chandelier et de vase voulons-nous être? Seigneur Jésus, merci pour la Sainte-Seine. Oui, nous le croyons que le sang de Jésus nous sépare du péché. Nous le croyons que ce petit peu de vin que nous allons boire nous rappelle tout ce que tu as accompli pour que nous aussi nous puissions mourir à nous-mêmes par ta grâce, afin que ta vie de résurrection
se manifeste au travers de nous. Vraiment, Jésus, du fond du cœur, merci. Merci pour ces moments. Que ton nom soit béni.